Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 100 ans, le monde s'acheminait vers la guerre. Le 18 mars prochain, France 2 va diffuser les deux premiers épisodes du documentaire que Daniel Costel et Isabelle Clarke consacrent à la Première Guerre mondiale. Franck Ferrand a vu ces films en avant-première. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Au total, ce sont 4 épisodes que le roi français du documentaire Daniel Costel et Isabelle Clarke viennent de réaliser sur la Grande Guerre à partir d'images d'archives qu'ils ont colorisées, sonorisées, remises à la bonne vitesse aussi, c'est très spectaculaire. On est dans la série déjà légendaire des Apocalypses, vous savez. Le magazine Historia consacre un numéro entier à cet événement télévisuel. Le numéro est en kiosque aujourd'hui et Pierre Baron, le directeur de la rédaction, est venu comme chaque mois nous rendre visite.
Vous allez en profiter pour nous parler de l'aube de cette grande guerre.
Oui, de cette année 14 qui s'annonçait si belle et des premiers jours d'un conflit qui allait devenir un des pires cauchemars jamais traversés par l'humanité.
Mais vous n'allez pas pour autant oublier notre retour aux origines.
Pas du tout. Je répondrai aujourd'hui à la question de Patrice à propos de l'expression « le banc et l'arrière-banc ». Pour le moment, c'est le cas de le dire, ouvrons le banc, retour un siècle en arrière, en 1914.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Mars prochain, donc, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de ce documentaire Apocalypse. Le premier s'ouvre évidemment sur le calme trompeur du bel été 14 et sur ceux qui, sans le savoir encore, allaient devenir les combattants de la Grande Guerre.
Qui sont les hommes de ce temps? Si tranquilles et pourtant si près de la guerre. Ce sont, pour beaucoup, des paysans attachés à leur terre, leur tradition, leur religion. Ils se sentent en sécurité. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il n'y a pas eu de grand conflit européen. Les rentiers peuvent profiter de ce bel été de 1914.
Le bel été de 1914, le dernier d'une époque, tout simplement, le dernier de la belle époque. Comment oublierai-je cette heure-là, écrit Colette dans Le Matin, début août 1914. 4 heures, un beau jour voilé d'été marin, les remparts dorés de la vieille ville, debout devant une mer verte sur la plage, bleue à l'horizon. Et au milieu de la cité, tous les vacarmes jaillissent à la fois, le tocsin, le tambour, les cris de la foule, les pleurs des enfants. On se presse autour de l'appariteur au tambour, qui lit. On n'écoute pas ce qu'il lit, parce qu'on le sait. Les détails de cette heure me sont pénibles et nécessaires, comme ceux d'un rêve que je voudrais ensemble quitter et poursuivre avidement. C'est la mobilisation, cette fois ça y est, la France et l'Allemagne se regardaient en chien de faïence depuis plus de 40 ans, depuis l'effondrement français à Sedan et la victoire des Prussiens, depuis une dizaine d'années, si vous me passez l'expression, ça chauffait, on était passé à deux doigts de la guerre à propos du Maroc, à deux reprises déjà en 1905, c'était la crise de Tanger, et puis en 1911 avec l'affaire d'Agadir. En vérité, on marchait si bien vers la guerre que les affiches de la mobilisation avaient déjà été imprimées depuis longtemps, comme nous l'a raconté Jean-Pierre Guénot à ce même micro, et que en 1913, le Parlement avait fait passer la durée du service militaire de 2 à 3 ans. On était plus que prêts, ça n'avait plus rien à voir avec ce qui s'était passé en 1870, bien entendu. Alors vous l'avez appris à l'école, dans ce basculement, dans cet emballement vers la guerre, les alliances ont joué évidemment un rôle catastrophique. D'un côté, la triple entente composée de la France, de la Russie impériale et du Royaume-Uni, et puis de l'autre, la triplice, contraction du terme triple alliance, cette alliance conclue entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et le Royaume d'Italie, qui du reste dans un premier temps va choisir de ne pas entrer dans le conflit. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les causes de la guerre, je n'ai pas envie de me faire quelques ennemis supplémentaires, car vous savez que les gens ne sont pas d'accord sur ce sujet, je ne vais pas disserter une fois de plus sur la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement du conflit, vous savez que ce sera une clause terrible et pleine de conséquences du traité de paix de 1919, puisque l'Allemagne sera officiellement reconnue comme responsable de la Première Guerre mondiale. Est-ce que le capitalisme allemand serait le vrai responsable de l'enveniment de la situation? C'était la thèse de Lénine, bien entendu, et plus tard la thèse des soviétiques. Aujourd'hui, les milieux d'affaires auraient plutôt tendance à passer pour avoir été un facteur de stabilité au début du XXe siècle. On lorgnerait plutôt directement du côté du chancelier Bethmann-Hollweg et de l'état-major allemand hyper nationaliste et qui... Surtout, avait lancé une véritable concurrence sur les mers avec l'Angleterre. Vous savez, c'était cette course à l'armement naval dont on pense qu'elle a joué un rôle absolument décisif. Mais il faudrait faire évidemment aussi la part du revanchisme français. Le président Poincaré était lorrain, n'est-ce pas ? La part de la crainte des dirigeants austro-hongrois devant l'éclat, l'écartèlement de l'Empire sous la pression des diverses nationalités. La part de l'espoir de certains stratèges russe d'accéder au détroit et de s'ouvrir de nouveaux débouchés vers la mer, etc. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse Sophie Chotek à Sarajevo le 28 juin 1914 n'est en vérité qu'une étincelle sur un énorme baril de poudre. Et une étincelle qui, si l'on y regarde de très près, n'aurait même peut-être pas dû être suffisante pour entraîner le monde dans la guerre. D'ailleurs, en France, on n'y a pas accordé une bien grande importance à cet événement qui est passé plutôt pour une sorte de... J'allais dire de faits divers, c'est quand même un fait divers politique, ça touche une famille impériale, mais ça n'a pas été considéré comme un événement de très grande importance. À l'époque, il faut bien vous dire qu'en France, on est littéralement aveuglé par le grand scandale politico-mondain. L'épouse de Joseph Caillaux est allée tuer dans son bureau le patron du Figaro, on a eu l'occasion d'en parler avec Dominique Jamais il y a quelque temps, ça occupe tous les esprits. Selon Éric Allary, dans son ouvrage « La grande guerre des civils », en France, dit-il, même si la presse consacre une large place à l'assassinat de Sarajevo, l'événement ne suscite guère d'émotion ni même d'intérêt. Les Français se passionnent davantage pour l'affaire de l'ancien ministre Caillaux, dont la femme vient de tuer le directeur du Figaro. Les journalistes retracent la vie de la famille impériale et donnent moult détails de l'attentat, mais ils ne formulent aucune crainte sur le danger qu'il pourrait faire peser sur l'équilibre mondial. Tout au plus, quelques hommes politiques, dont Clémenceau, font-ils remarquer qu'à attribuer la responsabilité de l'attentat aux Serbes est inadmissible et susceptible de créer des tensions internationales. Entre parenthèses, Clémenceau, depuis des années déjà, était sur cette ligne et ne manquait aucune occasion d'accabler le régime austro-hongrois qu'il finira par démanteler en 1918-19. Les 5 et 6 juillet, lors des entretiens de Potsdam, qui réunissent les représentants de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, le chancelier allemand Bethmann-Hollweg déclare à son allié qu'il ne faut pas laisser passer le moment actuel si favorable, dit-il. Voilà une formule épouvantable quand on y songe. Les deux délégations décident à ce moment-là de risquer la guerre. On va régler la question serbe par les armes, même si l'on sait que la Russie est prête à voler au secours de la Serbie. Or, du 20 au 23 juillet, le président de la République française, Raymond Poincaré, et son président du Conseil, René Viviani, sont en voyage officiel à Saint-Pétersbourg. On ne connaît pas tout à fait dans le détail le contenu des entretiens avec les différents responsables du gouvernement et de l'état-major russe. Ce qui est certain, c'est que le 23 juillet, l'Autriche, on attend juste la fin de ce voyage, l'Autriche lance son ultimatum à la Serbie, qui doit expirer sous 48 heures et qui exige de celle-ci qu'elle poursuive et punisse de la manière la plus stricte les auteurs de l'attentat et leurs commanditaires supposés. Le 25 juillet, le gouvernement serbe accepte 8 des exigences de l'ultimatum. On a eu l'occasion de le dire, on va le réentendre avant que ce centenaire ne soit achevé, bien entendu, mais il faut le souligner, ça. Ce gouvernement serbe formule des réserves juste pour la dernière, à savoir la participation de fonctionnaires autrichiens à l'enquête sur l'attentat de Sarajevo. Après tout, on est en territoire serbe. Dans un premier temps, on se dit que ça va suffire. Le Kaiser part ostensiblement en croisière. Et à son retour, le 28 juillet, Guillaume II se félicite de ce qui apparaît comme un succès diplomatique. Il écrit dans son journal « C'est un brillant résultat, un grand succès pour Vienne. Il fait disparaître toute raison de guerre. » Ça y est, les Allemands se disent que finalement la guerre n'aura pas lieu. Et pourtant, le 30 juillet, le chancelier se rend compte du danger devant l'insistance de la Grande-Bretagne à intervenir pour trouver un compromis. Il tente alors de pousser le gouvernement de Vienne à accepter la réponse serbe. L'intervention du chef du grand état-major, le général von Moltke, auprès de Guillaume II, a permis de repousser la réponse serbe. Et à ce moment-là, le gouvernement autrichien, qui est fort du soutien allemand, juge cette réponse serbe insuffisante. On est passé à deux doigts d'un accord de paix, finalement. allemand. Le 28 juillet 14, l'Autriche, ça y est, déclare la guerre à la Serbie. Et alors là, c'est la réaction en scène. Les Russes mobilisent. Le 29 juillet, le président de la République, Raymond Poincaré, et le président du Conseil, Viviani, rentrent donc de leur voyage en Russie. Et dans la soirée du 31 juillet 14, ça c'est fondamental, Jean Jaurès est assassiné. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, dans les jours qui viennent. Poincaré, bien entendu, va sauter, si je puis dire, sur l'occasion. Il adresse un message aux chambres, message qui est lu par Viviani à la Chambre des députés. La France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée qui est un insolent défi aux droits des gens. Avant qu'une déclaration de guerre nous eût encore été adressée, notre territoire a été violé. L'Allemagne a déclaré subitement la guerre à la Russie. Elle a envahi le territoire du Luxembourg. Elle a outrageusement insulté la noble nation belge, notre voisine et notre amie. Et elle a essayé de nous surprendre traîtreusement en pleine conversation diplomatique. Bref, vous avez compris. Ça y est, ce sera l'union sacrée. Ce sera la guerre. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie.
Apocalypse sur Europe 1, la série documentaire historique qui sera diffusée à partir du 18 mars sur France 2. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à cette fameuse année 1914.
Alors, vous avez bien compris qu'entre le 28 juillet et le 6 août, tous les États de cette double alliance se déclarent la guerre les uns aux autres. Le 31 juillet, le chef d'état-major, le jour même où est assassiné Jaurès, le chef d'état-major Joseph Joffre tente vainement d'obtenir du ministre de la guerre Messimi l'ordre de mobilisation. Seulement, il reçoit uniquement l'autorisation de placer des troupes à 10 km de la frontière. On y va à la guerre, mais on y va tranquillement, si je puis dire. En pleine nuit, il décide d'écrire une note à l'attention du ministre de la guerre qu'il compte lui apporter à la première heure du lendemain en personne. Cette note, elle a été transcrite notamment par André Castelot, je vous la lis. « Depuis 5 jours, je lutte pour arracher au gouvernement le rappel des permissionnaires. Nous ne pouvons pas nous livrer comme l'Allemagne à une mobilisation hypocrite et camouflée. La mobilisation chez nous constitue un tout homogène qui ne se débite pas par tranches. Je vous répète ce que je vous ai dit hier. Si le gouvernement tarde à donner l'ordre de mobilisation générale, il m'est impossible de continuer à assumer la responsabilité écrasante des hautes fonctions dont sa confiance m'a investi. » Joffre se rend donc comme prévu au ministère de la guerre le 1er août au matin. Il déclare à Messimi que si l'ordre de mobilisation n'est pas donné pour le jour même au plus tard à 16 heures, il se verra contraint de démissionner. Messimi le rassure, il lui dit que le conseil se réunit dans une heure à l'Élysée, que s'il le souhaite, Joffre pourra expliquer lui-même son point de vue au président de la République, Raymond Poincaré. À 15h45, le chef du gouvernement français décrète le début de la mobilisation générale pour le 2 août. À 17h, l'empereur Guillaume II ordonne de son côté la mobilisation en Allemagne. Puis il va déclarer à 19h la guerre à la Russie. Français et Allemands décrètent donc la mobilisation générale de leurs troupes dès le 1er août. Et on peut dire quasiment à la même heure. Et le 1er août, quand les affiches annonçant la mobilisation générale sont placardées sur les murs de France, vous imaginez bien que c'est la stupéfaction. L'ordre de mobilisation s'est fait par le décret prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer le 1er août 1914, donc publié au journal officiel du lendemain. Le télégramme donnant l'ordre de mobilisation a été envoyé de Paris à 15h55 le 1er août aux commandants de corps, de division, de régiment, ainsi qu'aux préfets. Ces derniers le relayant au sous-préfet, au maire, etc. Il faut imaginer, dans les communes rurales, même les plus isolées, vous avez des gendarmes qui, soit à cheval, soit en automobile, vont porter la mauvaise nouvelle. On sonne, bien entendu, le tocsin. Le pays est complètement en état d'alerte. On attendait cette guerre depuis très longtemps, encore une fois. Mais est-ce qu'on était conscient qu'elle allait venir aussi vite? Sûrement pas. Le dimanche 2 août 1914, à 9h, près de 3 600 000 hommes sont placés sous l'autorité de l'armée. On prévoit d'en envoyer tout de suite 1,7 million dans la zone des combats. 3 millions d'hommes supplémentaires seront incorporés entre le 16 août 14 et le 31 août 1915, sont exemptés évidemment de la mobilisation les soutiens de famille, ça ce sont les principaux bien entendu, les personnes handicapées physiques et mentales évidemment, et les hommes atteints d'une incapacité lourde. Les commissions ont été assez peu regardantes pour tout vous dire. Le 2 au soir, l'Allemagne somme le gouvernement belge de ne pas s'opposer au passage des troupes allemandes à travers la Belgique, et le 3 août, l'ambassadeur d'Allemagne transmet au chef du gouvernement français la déclaration de guerre de la France. Là, il est 18h45 le 3 août. Cette fois, il n'y a plus moyen de faire machine arrière. C'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la France. Le 4 août, l'Allemagne envahit la Belgique. Elle viole donc sa neutralité. Et au passage, elle provoque la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l'Allemagne. C'est une espèce de jeu de domino épouvantable, bien entendu. Alors, à partir du 31 juillet, le gouvernement français va prendre une série de décisions économiques pour essayer d'accompagner l'entrée en guerre. L'exportation des produits pouvant avoir une utilité militaire évidemment maintenant est interdite. Le budget alloué au ministère de la guerre est augmenté considérablement d'un crédit de 208 millions de l'époque. C'est très important pour couvrir toutes les dépenses afférentes, évidemment. Pour assurer le travail de l'administration, une partie des fonctionnaires est laissée en sursis d'appel, les mobilisés étant progressivement remplacés par des retraités volontaires qui viennent les remplacer dans les bureaux et à ce moment-là, eux-mêmes partent évidemment pour la guerre. La mobilisation massive a des conséquences immédiates, ça, il faut en être conscient. Les jeunes hommes adultes, les chevaux dont on parlait hier, 130 000 en août, 600 000 pendant toute la guerre, les mulets, les ânes, tout ce monde-là, si j'ose dire, part pour les frontières, ce qui désorganise complètement une société qui, à l'époque, est encore très rurale. La presse réduit fortement son tirage, évidemment, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup moins de personnel dans les entreprises de presse. Le courrier, puis la censure va bientôt s'instaurer, on n'en est pas encore tout à fait là. Le courrier n'arrive plus pendant toute la période de mobilisation. Le trafic ferroviaire est mis au service, bien entendu, des armées. Les ménages font le plein de provisions. Il faut imaginer ce que c'est d'un point de vue tout à fait concret. C'est Éric Allary qui nous raconte tout ça. À Toulon, dit-il, le 1er août, échanger dans les banques des pièces de monnaie contre des billets devient illusoire. Le préfet du Var signale encore que la Banque de France a été envahie le matin même et que le prix des denrées augmente dans des proportions élevées par suite de l'empressement de la population à se munir d'approvisionnement. Les 100 kilos de pommes de terre passent ainsi de 12 à 40 francs. En ville, les Français font un peu partout des stocks de nourriture, se rappelant les récits de la guerre de 1870, où certains, notamment à Paris, ont vécu dans des conditions proches de la famine. Un peu partout, des épiceries sont obligées de fermer leurs portes pour ne pas être assailli. On a peur de manquer de pain, bien entendu. La loi du 5 août 1914 instaure une allocation journalière versée aux familles pauvres, dont le soutien de famille aurait été mobilisé, 1 franc et 25 centimes par jour. Enfin bon. Et le 13 août, le gouvernement ordonne l'ajournement des loyers pour la durée de la guerre. On prend donc toutes les mesures habituelles en temps de guerre. Quel est l'état d'esprit réel des Français à ce moment-là? Nous allons en parler, bien entendu, dans un instant avec Pierre Baron, mais il est très difficile de le cerner. Il faudrait, au cas par cas, aller chercher les témoignages des uns et des autres selon leur position, selon aussi, ne l'oublions pas, leur investissement dans les affaires de l'époque et leur envie ou non d'en découdre avec l'Allemagne.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur l'année 1914, l'aube de la Première Guerre mondiale.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à cette année 1914. Nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale.
Alors, il faut bien comprendre que les réactions sont différentes. Je vous ai dit, en fonction des différentes couches de la population, de l'appartenance politique, mais aussi, et c'est fondamental, entre ville et campagne, les citadins sont plus rapidement alertés par la presse, qui commence déjà à colporter rumeurs et nouvelles vraies et fausses. Et on assiste à des manifestations à Paris, quelques-unes nationalistes, au retour de Russie de Poincaré et Viviani, d'autres organisées par des socialistes et des syndicalistes pacifistes. Éric Alary dit, à contrario dans les campagnes où vivent encore plus de la moitié des Français, la stupeur s'empare des esprits, car les paysans lisent peu, que vont devenir les fermes, les bêtes, les récoltes à venir. Cette déclaration de guerre heurte de plein fouet leur vie quotidienne. À Paris même, on observe un gros contraste entre la journée et le soir pendant cette période de mobilisation. Marie-Hélène Bourquin nous en apprend un peu plus. Le jour, une extraordinaire animation gagne les rues de la capitale, dit-elle. Mais le soir, les débits de boissons et les stations de métro devant fermer à 20h, les théâtres et les cinémas faisant relâche, c'est une ville morte. Dans la journée, au contraire, Paris pavoise, Paris en vacances forcées a presque un air de fête. La plupart des boutiques, des bureaux, des ateliers ayant fermé, tout le monde est dans la rue. La rue qui redevient la propriété des piétons, puisqu'automobiles et chevaux sont réquisitionnés, à l'exception toutefois des autotaxis. C'est pourquoi ce seront les dernières voitures disponibles, vous savez, aux heures tragiques de la Marne. La plupart des lignes de métro, ajoute Marie-Hélène Bourquin, sont fermées et les tramways électriques n'ont plus de conducteurs. Aussi les passants désœuvrés applaudissent-ils les rappeler, leur font-ils escorte jusqu'aux gares, au carrefour des chanteurs des rues lancent et vendent des chansons de circonstance. Dans les cafés qui sont bondés, les orchestres jouent à effectifs réduits les hymnes russes et anglais en alternance avec la Marseillaise. On croise sur les boulevards des petits vendeurs de décorations et de cocardes, tandis que des photographes ambulants fixent pour l'album de famille les adieux du mobilisé à sa femme ou à sa fiancée. Certains ont été accompagnés le plus loin possible. On part, vous savez, on a beaucoup raconté, montré ça avec ces images, Nach Berlin, hein, sur les écrits à la peinture sur les wagons spéciaux emmenant les soldats. On dit qu'on est parti la fleur au fusil. Depuis quelques années, on a beaucoup modéré les travaux de l'historiographie moderne ont permis de modérer cette vision et de montrer qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse et beaucoup d'inquiétude en vérité chez ceux qui s'en vont, qui partent pour le front. Alors, il y a une espèce de germanophobie qui immédiatement s'empare de la société. Tous les magasins à nom ou à consonance germanophobe sont particulièrement visés, même s'ils sont suisses ou alsaciens, les pauvres. Le dépôt des machines à coudre s'ingère, les laiteries Magie, qui sont absolument pas allemandes, sont saccagées, de même que la brasserie Haidt au 83 boulevard de Strasbourg, près de la gare de l'Est, qui était le lieu de rassemblement de milliers de mobilisés, dont beaucoup passent devant la brasserie à ce nom qui a l'air germanique, enfin qui l'est d'ailleurs, mais qui n'est pas allemand. On assiste à de vrais élans de xénophobie. Le café viennois est rebaptisé café liégeois. Les bergers allemands deviennent des bergers belges. L'eau de Cologne devient l'eau de Pologne. Enfin bon, etc. Évidemment, on ne veut plus entendre quoi que ce soit d'allemand. 450 personnes seront arrêtées le 3 août, nous dit Marie-Hélène Bourquin, en flagrant délit de pillage. 150 le seront encore le lendemain. Aussi, le souci de chacun est-il de ne pas être pris pour un allemand et les commerçants d'afficher sur leur boutique « Cette maison est bien française » et même certains écrivent « Maison archi-française ». Le 15 août, l'absinthe est interdite. Il reste la bière, mais les journaux demandent qu'on s'abstienne de boire des bières allemandes. Toujours hein, cette idée de patriotisme. La viande des Parisiens est taxée. 2,60 francs le kilo pour l'épaule de mouton français. 2,40 francs pour l'épaule de mouton africain. On voit le pays, tout simplement, se mettre, j'allais dire progressivement, mais se mettre très rapidement en état de guerre. Selon Éric Alary, la mobilisation est efficace car moins d'1% d'insoumis sont recensés. Toutefois, les mineurs, certains fonctionnaires et les cheminots peuvent s'y soustraire. En 12 jours, elle sera achevée, laissant villes et villages plus vides que jamais. Des millions d'hommes jeunes manquent immédiatement dans tous les secteurs de l'activité économique ainsi que dans les foyers, bien entendu. C'est seulement en 1920 que le député Louis Marin fera une première estimation précise du nombre total des mobilisés. Il est le rapporteur du budget et par conséquent, il a eu besoin de savoir combien de certaines familles doivent être indemnisées. Et selon ce document, le total de mobilisés par la France est d'environ, au total, hein, sur l'ensemble du conflit, 8 410 000 hommes du 2 août 1914 au 1er janvier 1919, dont 7 935 000 Français de métropole et 475 000 coloniaux. C'est donc, quand on dit une mobilisation de masse, c'est tout un peuple qui a été mobilisé.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civilos. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Un extrait de la chanson de Craonne interprétée par Marc Augeret. Nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre 14-18. Cet après-midi avec vous, Franck Ferrand et votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Le dossier du dernier numéro d'Historia est consacré à la Grande Guerre. 4 ans d'aberration dont on ne s'est toujours pas remis. Le numéro d'Historia qui est en kiosque dès aujourd'hui.
Bonjour Pierre Baron. Vous n'y allez pas de main morte, 4 ans d'aberrations. Il n'y a quand même pas eu que des aberrations dans cette Première Guerre mondiale.
Non, il y a eu essentiellement des aberrations. Comme vous, la rédaction d'Historia a eu la chance de pouvoir voir le documentaire Apocalypse. C'est ce qui va sauter aux yeux des spectateurs. J'espère en tout cas qu'ils seront très nombreux. À l'issue de ces 5 épisodes, c'est 4 ans d'un cauchemar comme l'humanité en avait pas connu auparavant de cette ampleur-là. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, pour une raison simple. C'est la première fois qu'on se bat sur quasiment tous les continents. C'est la première fois qu'on se bat, même si l'essentiel des opérations est en Europe. C'est la première fois qu'on se bat à la fois sur Terre...
On oublie à quel point c'est une guerre mondiale.
Dans les mers et dans les airs, puisque ce sont les débuts de l'aviation. Une guerre totale. C'est une guerre qui fait 9,5 millions de morts, excusez du peu. Et qui va laisser 21 millions de blessés, les gueules cassées notamment... Des gens qui vont garder toute leur vie des séquelles physiques et mentales irréparables, irréversibles. Tout ça pour en arriver à quoi ? À une Europe en ruine, toujours un siècle plus tard, qui a perdu totalement la prééminence qu'elle avait jusqu'à présent. Pour en arriver à une Allemagne humiliée, vous l'avez dit très justement tout à l'heure Franck, ce qui est en germe, la cause du second conflit 21 ans plus tard. Avec, et ça aussi c'est une aberration supplémentaire, la première fois que l'on rencontre un génocide, celui des Arméniens. Et il y en aura hélas d'autres en 39-45. Avec un Moyen-Orient totalement ingérable. Et pour cause, les Anglais ont fait à tout le monde la même promesse. Ils sont allés voir les Palestiniens pour leur dire « ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner un État ». Nous sommes allés voir les Juifs et on leur a dit « Vous allez avoir un État ». Et on a été voir les Turcs, c'était l'Empire Ottoman, pour leur dire « Ne vous inquiétez pas, rien ne changera, vous garderez votre État ». Évidemment, un siècle après, on voit où on en est.
Beaucoup de promesses et un bouleversement total. La sortie de l'Europe de l'histoire. Je recevrai Jean-Pierre Chevènement dans quelques jours et nous reparlerons évidemment de cet aspect fondamental. Mais en tout cas, c'est la fin de la primauté européenne sur le monde. Et puis, d'une façon générale, c'est la fin, on pourrait presque dire, d'une certaine civilisation. Hein. Cette grande guerre a été un événement extraordinaire. Alors, ce qui est magnifique dans le documentaire de Daniel Costel et d'Isabelle Clarke, moi j'en ai vu que 4 épisodes, mais vous dites qu'il y en a 5. Mais j'en ai vu 4. Bon, alors, je suis ravi de savoir que j'en ai encore un à voir. Dans ce documentaire tout à fait magnifique, c'est que on comprend à quel degré tous les peuples, et notamment les Français en l'occurrence, se sont impliqués, ont été complètement happés par cette guerre. Ce n'est pas simplement une guerre comme on les avait connues jusqu'alors, qui concernait les militaires et les populations civiles sur place. C'est une guerre où s'investissent des peuples entiers. Je vous propose d'écouter un extrait, c'est la voix de Mathieu Kassovitz qui dit le commentaire de ce documentaire.
Étrangement, l'immensité du carnage n'atteint pas le patriotisme des combattants et leur fait penser au contraire que la guerre peut s'arrêter. Le soldat Pierre Bringuier écrit à sa femme. Je ne désespère pas d'être de retour dans le courant de novembre. Il me semble difficile que les nations engagées puissent prolonger plus longtemps le formidable effort qu'elles fournissent actuellement. Les Français ont fait 25 000 prisonniers allemands et les filment comme le signe de leur victoire. Ce que font tous les belligérants. Les soldats français les regardent avec une curiosité, mais les deux haines. Le soldat Henri Desperrières, 21 ans, de Toulouse, dit « C'est la première fois que je les vois de près. J'ai des cartouches qui me pèsent. Je voudrais bien les coller dans le ventre de ces Prussiens. Mais les prisonniers seront assez bien traités dans les deux camps. » Le Comité international de la Croix-Rouge, créé à Genève, l'Agence des prisonniers de guerre, qui transmettra 10 milliards de lettres et de colis pendant tout le conflit.
C'est une guerre qui a été épouvantable d'abord, bien sûr, pour ceux qui étaient au front. 4 ans au fond du trou, écrit Jean-Yves Le Naour dans votre dossier, Pierre Baron. Les conditions de combat étaient effroyables, bien sûr. Hein.
C'était effroyable parce que c'était quotidiennement.
Il suffit de voir la photo sur la couverture d'Historia.
Oui. Ça donne une image de ce que pouvaient recevoir quotidiennement ces jeunes hommes. Une pluie de mitraille, il n'y a pas d'autre mot. Des dizaines et des dizaines de milliers d'obus tombant quotidiennement. Et puis, Franck, des heures et des heures d'attente. Dans la peur, dans la boue, puisque très vite on se met dans les tranchées, on ne bougera plus pendant 4 ans.
Vivre comme des rats au milieu des rats, disent Isabelle Carr, Clark et Daniel Costel.
La formule est terrible, mais c'est cela. Avec des heures d'attente où ces jeunes gens essayent tant bien que mal de tenir, de jouer aux cartes, d'écrire à leur famille, dans la peur. Et vous disiez tout à l'heure, avec un fil conducteur qui ne va pratiquement jamais cesser des deux côtés, le patriotisme. Cette idée que de toute façon, ce qui pourrait même être inconcevable aujourd'hui. De toute façon, c'est la patrie, et que pour la patrie, on ira jusqu'au bout.
Oui, c'est vraiment très important de le souligner. D'ailleurs, ce patriotisme transparaît constamment dans les documentaires, et c'est vrai que on pourrait s'imaginer, on aurait eu tendance d'ailleurs, il y a une trentaine d'années, à laisser entendre que on était dans l'esprit des Sentiers de la Gloire, etc., que les combattants étaient littéralement forcés, poussés sur le champ de bataille. Il y a eu certes évidemment des contraintes, même très, très fortes, mais il y a d'abord et avant tout ce moteur patriotique.
Ah, il ne faiblira jamais. Évidemment qu'il y a la peur, évidemment que très vite les hommes veulent rentrer. Mais cette notion de se battre jusqu'au bout pour sa patrie, des deux côtés d'ailleurs évidemment, va rester un fil conducteur intangible du conflit.
Ce qu'on voit bien, c'est que l'idée de cette guerre de position, de cet enterrement, de cet enlisement dans les tranchées est une idée d'abord allemande qui naît dans les glaises de Belgique. Oui. Et comme l'écrit Jean-Yves Le Naour, la découverte de la tranchée va s'opérer par empirisme en prenant exemple sur l'ennemi qui s'enterre pour tenir le terrain et qu'on ne parvient plus à déloger, ou par nécessité quand les obus et les balles font le vide en rase campagne, les hommes couchés sur le sol comprennent que leur survie dépend de leur capacité à creuser le sol le plus vite possible. Les trous individuels sont reliés les uns aux autres et la tranchée fait son apparition. Cette tranchée est devenue un symbole très angoissant. Vous parliez de fil conducteur tout à l'heure, ça me fait penser au très beau début à l'incipit du roman de Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, où il écrit toutes les 15 lignes attention au fil, attention au fil, attention au fil. C'est ce fil qui relie le poste de commandement au supérieur, bien entendu. Hein. Eh bien, cette tranchée qui est resté une sorte de symbole d'épouvante, il ne faut pas oublier qu'elle a d'abord été un refuge pour les combattants.
Et puis, il ne faut surtout pas oublier que vous avez votre première ligne, celle à partir de laquelle on monte à l'assaut. Mais en fait, il y a un réseau des galeries de tranchées. Et que derrière cette première ligne, il y a une deuxième ligne de tranchées où on évacue les blessés et par laquelle va passer, par ces chemins de la deuxième à la première ligne, eh bien la rotation, parce que le cauchemar, il est total. Et on voit arriver, d'ailleurs dans le documentaire, c'est une image bouleversante, on voit arriver la relève, c'est-à-dire des gens qui partent clopin-clopant, qui repartent vers l'arrière, et des gens souvent à peine remis de leurs blessures qui viennent les relayer pour quelques mois supplémentaires. La troisième ligne, pardonnez-moi Franck, de galerie étant réservée à l'état-major. Ce qui a abusivement, je le dis très clairement en tant qu'historien, fait penser qu'il y avait des planqués, ce qui est totalement aberrant par rapport à cette guerre.
Oui, qui est faux, il faut le dire. Alors, ce qui a pu choquer, c'est le comportement d'un certain nombre de très hauts officiers d'état-major. Je parlais des Sentiers de la Gloire tout à l'heure, hein, c'est cette mise en cause qui existe depuis les années 60 maintenant, et qui va sans doute faire l'objet de grands débats pendant toute cette année. Nous avions déjà consacré, nous, une première émission au général Foch, maréchal Foch, il y a quelques mois, pour ouvrir cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le centenaire est en train de commencer vraiment à s'installer, si je puis dire. Il y a eu cette extraordinaire grande collecte de la Bibliothèque nationale qui a permis d'aller chercher dans les greniers, dans les bureaux des Français, toutes sortes de souvenirs qu'ils ont été heureux de donner. Il va y avoir d'ailleurs une deuxième salve, si j'ose dire, de cette grande collecte. Tout le monde est mobilisé. Il suffit d'aller, moi je vois quand je me déplace, hein, quand vous allez dans le moindre village, les gens ont des initiatives pour célébrer ce traumatisme qui reste encore aujourd'hui une meurtrissure pour les Français. Et c'est sans doute la même chose en Allemagne, même si là-bas, on ne parle quasiment pas de cette grande guerre. C'est d'ailleurs très intéressant.
Oui, vous savez comme moi, Franck, du côté allemand, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a mobilisé le travail des historiens.
Celle de 70 et puis bien sûr la Seconde Guerre mondiale.
Et il y a comme une espèce de saut. Il y a beaucoup moins de spécialistes outre-Rhin de cette période qui a été bien évidemment aussi terrible et terrifiante pour eux que pour nous. Je pense aussi que dans l'imagerie et la mémoire collective, les gens ont compris qu'on était passé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité avec 14-18 d'une guerre artisanale à une guerre industrielle. Avant, c'était gants blancs, beurre frais, sabre au clair et on chargeait.
Ce qui n'enlevait rien à la violence, hein. Oui, voilà.
Ni au panache, ni à la violence. Mais bien évidemment, vous aviez des dégâts humains autrement considérables que quand vous passez à l'industrie, c'est-à-dire avec des centaines de milliers d'obus sur la tête.
On voit ça dans le documentaire, ces shrapnels, c'est-à-dire ces espèces de on met des petites billes d'acier qui explosent dans tous les sens et qui viennent défigurer les combattants. Enfin, tout ça est d'une violence absolument incroyable.
Des bombes à fragmentation.
Alors, ça, c'est le front, évidemment, sur Europe 1. Pendant tout le cours de cette année, nous aurons de nombreuses occasions de revenir, hein, sur cette guerre. Aujourd'hui, nous faisons un peu le tour avec Pierre Baron, mais on rentrera dans toutes sortes de détails. Ce que j'aimerais que nous fassions dans un instant, c'est revenir sur les grandes conséquences, les grands tournants de cette guerre. Et avant cela, je veux simplement saluer la nouvelle maquette et la nouvelle formule d'Historia. Pierre Baron, c'est un nouvel Historia que vous nous proposez.
C'est un Historia où on a étoffé le dossier, où on lui a donné une pagination variable et surtout plus importante. Et on a beaucoup travaillé sur le confort de lecture, en le recentrant, mais il a toujours été, j'allais dire génétiquement, dans son histoire de 100 ans, un journal ancré dans l'actualité.
Alors nous prenons un peu de recul, nous nous éloignons un tout petit peu du front dans quelques instants pour parler de tous les autres aspects de la guerre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ave Maria sur Europe 1, un extrait de la bande originale de Joyeux Noël, film de Christian Carion, interprété par Nathalie Dessay. Nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre 14-18 avec vous Franck Ferrand et votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia, dont le dossier du nouveau numéro est consacré à la Grande Guerre.
Et oui, autour de ce documentaire de Daniel Costel et Isabelle Clark, Apocalypse, la Première Guerre mondiale, qui sera diffusée sur France 2 à partir du 18 mars prochain. Vous avez employé un terme tout à l'heure, l'heure, Pierre Baron, qui est fondamental, je crois, pour comprendre cette Première Guerre mondiale, c'est le terme d'industriel. C'est la guerre à l'échelle industrielle, en vérité.
Exactement.
Sur le front, mais partout, partout.
C'est un effort de guerre considérable. Vous parliez tout à l'heure de ces hommes qui partaient. Bien sûr, la conséquence directe, c'est la montée en puissance, si j'ose dire, des femmes dans les usines, parce qu'il faut produire de plus en plus d'obus. C'est aussi une guerre d'ingénieurs, parce que sur ces 4 ans, on va voir arriver ce que nous, on a appelé le génie du mal, c'est-à-dire l'ingéniosité qui consiste à tuer de plus en plus de monde dans un minimum de temps, et qui va voir se développer des armes de plus en plus redoutables,
notamment
l'arme chimique.
Oui, voilà.
On peut parler de la Syrie aujourd'hui, mais ça a commencé en 1914-1918, l'arme chimique.
Nous allons entendre un extrait d'Apocalypse où il est question justement du rôle des femmes, non seulement dans la construction de diverses armes, mais aussi dans celle des protections, puisque là en l'occurrence on parle des casques.
Dans cette guerre qui devient de plus en plus industrielle, les ouvrières françaises sont lancées en septembre 1915 dans la production frénétique de 20 millions de casques, assez compliqués à produire à cause du renfort qui protège des éclats d'obus. L'une de ces ouvrières est mise en scène pour remonter le moral d'un lointain soldat qui recevra ce casque avec un petit mot doux. Cher petit soldat, c'est une petite Française qui vient vous souhaiter un prompt et bon retour au milieu des vôtres. Je vous souhaite que ce casque vous porte bonheur. Lucie Lambert. Cet heureux soldat et ses camarades ont aussi un nouvel uniforme qui sera appelé Bleu Horizon, censé se confondre avec le ciel dans les assauts. Mais les hommes s'inquiètent de ces signes avant-coureurs d'une guerre longue. Bien que les caméramens officiels leur demandent toujours d'être souriants et combatifs, l'un d'entre eux mime le suicide.
Ces femmes jouent un rôle essentiel dans les usines, elles jouent un rôle non moins essentiel dans les fermes, dans les services publics, dans les villes, etc. C'est un changement du statut de la femme qui se dessine en filigrane.
Oui, avec une différence, oui, bien sûr, dans tous les pays, mais on voit bien que l'Angleterre et l'Allemagne sont déjà plus engagées industriellement. Parce que pendant les 4 ans du conflit, La montée en puissance des femmes en France dans les usines, c'est 20%, alors que c'est 50% en Angleterre, 55% en Allemagne. On voit qu'il y avait déjà un acquis industriel très fort. Les femmes françaises, beaucoup plus souvent, restent à la ferme pour tenir l'exploitation.
Oui, c'est ça, bien sûr. Mais un Français sur deux était encore du monde rural.
Absolument,
en 1914.
Absolument.
Hein. Alors, on voit cette... ça fait partie des films qu'on diffusait, bien entendu. Hein. Ça fait partie de la fameuse propagande de guerre sur laquelle nous ne nous appesantirons pas aujourd'hui. Mais, cher petit soldat, voici un casque dont j'espère qu'il vous portera chance de la part d'une petite Française qui l'a fabriqué. Et on glisse la lettre. Ça évoque cette correspondance avec le front qui joue un rôle absolument essentiel. On envoie des colis, on envoie le plus de nouvelles possibles, avec bien sûr la barrière de la censure néanmoins.
Systématiquement, et y compris dans des lettres forcément poignantes et souvent très intimes, toujours extraordinaire de voir des caviardages sur des lignes entières pour de jeunes hommes qui écrivent à leurs fiancées ou à leurs jeunes épouses, avec tout de même un drôle d'effet. On se demande en quoi la France est en danger quand on enlève des mots d'amour sur la correspondance de gens qui ont simplement peur de mourir et qui pensent à l'être qu'ils aiment. C'est terrible, juste terrible.
Oui.
Et on trouve aussi, on parlait de patriotisme tout à l'heure, je me souviens avoir lu une lettre d'un jeune homme de 27 ans, c'est fin 1914, donc c'est le début du conflit, et il a un petit garçon qui a une dizaine d'années et qui lui envoie une lettre pour lui dire « Papa, pour Noël, j'aimerais bien que tu me ramènes la tête d'un Allemand avec son casque ». Et je trouve que la réponse du père est juste extraordinaire. Il écrit « Non, mon petit garçon, je ne te ramènerai pas la tête d'un Allemand avec son casque, parce que si de l'autre côté, un petit garçon allemand faisait la même chose, tu ne reverrais pas ton père pour Noël. » Et j'ai trouvé cette lettre extraordinaire d'intelligence. Ça veut dire qu'au-delà du patriotisme, il y avait probablement aussi beaucoup d'humanité des deux côtés des tranchées.
Il y a eu des progrès techniques considérables qui sont liés, bien sûr, aux recherches de guerre. On va voir l'aviation, c'est le cas de le dire, prendre un essor
oui.
considérable. On va voir l'industrie se modifier dans bien des domaines. Les structures sociales vont se modifier aussi, parce que, et ça, c'est le lendemain de la guerre plutôt, mais il va falloir adapter l'économie et adapter les services sociaux à une économie qui a été saignée à blanc.
Saignée à blanc. Avec... Et ça, c'est la conséquence première. L'Allemagne, vous l'avez dit, est déclarée coupable ou responsable de la guerre, mais avec un aveuglement, notamment français, mais pas seulement, à faire payer l'Allemagne au-delà du raisonnable. c'est-à-dire que tout lui est imputé. Je vous rappelle, enfin je rappelle aux auditeurs, aux auditrices, que l'Allemagne va être occupée, qu'on va allègrement piller dans ses réserves énergétiques, le charbon, la houille, et que l'Allemagne va être humiliée. Costel et Clark nous ont montré dans des précédents documentaires l'image d'Allemands giflés, calottés, parce qu'ils refusaient de se découvrir devant le passage d'un corbillard contenant le corps d'un soldat français. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà du raisonnable et on va, pour le coup, passer du patriotisme en 20 ans au nationalisme, avec les conséquences que l'on sait du côté d'Hitler.
J'ai été assez frappé en regardant ce documentaire par tout ce qui concerne Gallipoli, les affaires d'Orient, etc. On se rend compte de l'extraordinaire souffrance aussi des hommes qui ont été embarqués dans cette mauvaise opération, si je puis dire. Sur un plan international, c'est un changement total des équilibres et la grande puissance qui va sortir, si l'on peut dire, vainqueur de cette affaire, ce sont les États-Unis d'Amérique.
Oui, clairement. Oh, d'abord, on le voit au niveau des réserves d'or, dès le début des années 20. L'Angleterre était avant le conflit, le pays qui en détenait le plus et dont la monnaie, la livre, est de loin la monnaie phare. Et c'est terminé. C'est terminé pour l'Angleterre, évidemment pour l'Allemagne et la France aussi. Et donc c'est terminé pour l'Europe, j'allais dire durablement, hélas.
Ah oui, ça a été à partir de 1917 la prise de pouvoir par les Américains, avec évidemment des allers et retours, hein, parce qu'on se rend compte que l'entrée en guerre américaine, ça aussi c'est bien montré dans le doc, est complexe. Hein.
Elle est complexe et si c'était pas aussi triste, ça prêterait à sourire.
Oui, oui, vraiment,
rire,
oui.
Parce qu'on les attend.
Ils arrivent, mais ils arrivent tard, comme voilà, la cavalerie un peu. Hein.
Je rappelle quand même qu'il y a un front qui a cédé, puisque Lénine ayant pris le pouvoir en Russie, je dirais pour
ça c'est
court.
L'autre grand aspect voilà, fondamental, c'est l'arrivée des bolcheviks au
14-18,
pouvoir.
Hein, même. Le mur de Berlin, ça s'arrête comme 1989. Lénine veut sauver sa révolution. Qu'est-ce qu'il fait? Je dirais qu'il cède de l'espace, c'est-à-dire son territoire, pour gagner du temps. Et le temps, ça doit servir à sauver son régime. Évidemment, l'Allemagne perd un front, donc des centaines de milliers de soldats allemands se retrouvent mobilisés à l'Ouest. Tout le monde attend les Américains avec une impatience énorme, puisque nous sommes en infériorité numérique. Et Pershing, comme vous l'avez vu dans le documentaire, c'est quasiment surréaliste. Dans les premières semaines, dit « pas de problème, nous serons prêts mais en 1919 ». C'est juste surréaliste. Alors Joffre se permet tout de même d'insister. Et là, nous avons une deuxième réaction américaine qui est non moins surréaliste, celle donc de Pershing qui dit « puisque c'est comme ça, nous allons vous céder nos nègres. » Et donc, ce sont les Noirs américains qui vont commencer à aller au combat aux côtés des troupes françaises, parce que bien sûr, les Américains ne sont pas prêts.
Oui. La Grande Guerre, 4 ans d'aberration dont on ne s'est toujours pas remis, c'est le grand dossier que propose la nouvelle version, la nouvelle formule d'Historia. Merci beaucoup Pierre Baron. Merci. C'est un dossier qui a été fait donc autour du documentaire de Daniel Costel et Isabelle Clark, Apocalypse, qui sera diffusé sur France 2 à partir du mardi 18 mars à 20h45. Et puis, puisque nous parlons de patriotisme, de Grande Guerre et des armes françaises, je voudrais vous parler de la Nuit aux Invalides. Nous avions l'année dernière consacré une émission à ce spectacle absolument extraordinaire qui se tient aux Invalides. On a l'impression que le monument se met à bouger, hein, il s'anime littéralement sous la caresse des projecteurs et des belles couleurs de Bruno Cellier. Eh bien, la Nuit aux Invalides revient en 2014, si je puis dire. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur, en un seul mot, lanuitauxinvalides.fr. Le spectacle aura lieu du 24 avril au 24 mai prochain.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patrice, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il aimerait connaître l'origine de l'expression « le banc et l'arrière-ban ».
Ça, c'est une origine féodale, en fait, cher Patrice, puisque autrefois, à l'époque féodale, vous savez que les vassaux devaient, évidemment, assistance à leur suzerain. On réunissait l'host, c'est-à-dire l'armée, et on formait le banc. Le banc, c'était la convocation, justement, de toutes les petites armées de ces vassaux pour un un suzerain. Et lorsque le péril était très grand, on convoquait non seulement le banc, c'est-à-dire les vassaux du premier rang, si je puis dire, mais l'arrière-banc, c'est-à-dire qu'on allait chercher loin dans les provinces toutes les forces, tous les bras dont on aurait eu besoin. C'est de là que vient le terme bannière aussi. Vous savez, la bannière, c'est le drapeau du banc, précisément. Bon. Donc, alors aujourd'hui, ça signifie qu'on réunit tous ceux dont on peut espérer un soutien ou un appui pour le succès d'un projet, mais c'est la même signification. Alors, le terme même de banc, c'est un mot d'origine franque qui avait un sens de proclamation. C'était la proclamation publique, d'où le terme de bannissement ou de mettre au banc, c'est-à-dire qu'on proclamait le départ, l'exclusion de quelqu'un de la collectivité. Et puis, quand on réunissait une population pour lui annoncer quelque chose, on roulait tambour, alors on appelait ça ouvrir le banc pour faire la proclamation, et puis ensuite on fermait le banc, d'où l'idée de ouvrir le banc et fermer le banc. C'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est de voir que par extension, ça s'est élargi à l'ouverture et à la clôture de n'importe quelle cérémonie ou manifestation. Hein. On dit ouvrir le banc pour n'importe quelle réunion. Alors, il y a également un autre terme avec ce mot banc, B-A-N. Je le dis pour tous nos plus jeunes auditeurs. Je pense notamment à certains que je connais bien, qui auraient tendance à écrire ça avec un C, n'est-ce pas ? Là, c'est banc, B-A-N. Publier les bancs, c'est également, c'est dans le cas d'un mariage notamment, quand on sait qu'un mariage va avoir lieu, on rend public la proclamation de ce mariage pour, en attendant que quelqu'un puisse se manifester contre, puisse avoir quelque chose à dire contre. Eh bien, cette publication des bancs, c'est exactement la même origine, c'est toujours cette idée d'une proclamation publique. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors à l'occasion du Salon de l'agriculture qui se tient en ce moment porte de Versailles à Paris, nous consacrons une émission au métier de l'agriculture, un secteur qui recrute. Quelles sont les opportunités d'emploi, quelles sont les formations? Vous serez tout en écoutant les experts.
Merci beaucoup Elena. Eh bien nous nous retrouvons demain Céline avec le président Giscard d'Estaing demain.
Avec grand plaisir Franck, à demain.